Alors, j'ai en fait, pour le Père Emmanuel, deux questions. L'une sur les théologies de la libération et l'autre sur aujourd'hui. Sur les théologies de la libération, une fois remises les choses dans leur juste perspective, comme vous l'avez fait, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre aussi en lumière trois points, je les mentionne, l'instruction Ratzinger de 1986 sur la liberté chrétienne et la libération, une fois prodiguées les mises en garde contre la grille marxiste, bien entendu, revient aux réalités en admettant la légitimité de la lutte contre les structures économiques injustes. Il va même, à un certain paragraphe, jusqu'à envisager, en cas d'oppression caractérisée, le recours légitime à la lutte armée, très exceptionnellement. Mais ça figure dans le texte. Et par ailleurs, on sait que Monseigneur, le cardinal Ratzinger et Benoît XVI ont beaucoup travaillé avec Gustavo Gutiérrez, ce qui a aidé à faire évoluer la pensée de la théologie de la libération selon Gutiérrez, pour la recadrer dans un cadre pleinement catholique. Bon. L'autre point, est-ce qu'il ne faudrait pas parler du rôle de la théologie argentine, dite théologie du peuple, à laquelle se rattachait le cardinal Bergoglio, comme le père Scanone, jésuite, le rappelle dans son livre d'entretien avec Bernadette Sauvaget. Et le troisième point, j'en finis avec les théologies de la libération, c'est l'exemple de Monseigneur Romero du Salvador, qui ne se rattachait nullement aux théologies de la libération, mais qui a été forcé par l'effroyable guerre civile qui a fait 80 000 morts au Salvador, il a été forcé de prendre le camp des opprimés. Et il l'a si bien pris que l'oligarchie l'a assassiné quand il était à l'hôtel en train de célébrer l'Eucharistie. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas parler de ces questions-là ? Maintenant, sur la question aujourd'hui, vous avez dit qu'aujourd'hui, le danger était politique. Vous avez fait un parallèle entre la dérive ultra-politisée grille marxiste des théologies de la libération et aujourd'hui l'invasion, par exemple, du transgenre. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas regarder le transgenre autrement et voir, comme ça a été dit d'ailleurs hier, le transgenre et l'espèce de sursaturation des nouvelles mœurs qui ont remplacé toute espèce de débat, jusque dans l'enseignement de l'histoire, dans l'enseignement secondaire, c'est ahurissant. Est-ce que ce n'est pas justement le contraire du politique ? Le politique ayant son autonomie qui est le service du bien commun, alors que le transgenre et toutes ces choses, ce sont des revendications de micro-communautés qui ne ressortissent pas du politique du tout en réalité, qu'il s'agit des mœurs sexuelles, et que ça tend à se substituer au politique, et que c'est précisément un effet du système économique que nous subissons, car chacun sait que derrière le transgenre et toutes ces choses, il y a l'industrie biotechnologique. Voilà, excusez-moi, c'est un peu,
merci
pour un peu varié, mais j'ai fini.
Merci beaucoup.
Alors, sur vos remarques... sur vos remarques... concernant la théologie de la libération, je n'ai rien de particulier à dire parce que, bien sûr, tout à fait, vous avez raison de souligner ces éléments. Je ferai juste cette remarque. Je pense que il faut toujours, quand on utilise des mots ou des expressions, se dire, attention, est-ce que ces mots ou ces expressions, d'où viennent-ils ? Est-ce que je ne suis pas en train d'utiliser, sans m'en rendre compte, une grille de lecture qui me conduit à la dialectique marxiste, ou l'équivalent, hein ? Je prends juste cet exemple. Légitimité de la lutte contre les structures injustes. Oui, mais est-ce que c'est une lutte contre des structures injustes qui sont les déterminismes de l'homme, ce qui est la thèse marxiste, c'est-à-dire que ôter les structures et l'homme redevient libre, ou est-ce que c'est simplement qu'une société a des normes, elle s'organise comme elle peut, et qu'elle doit faire évoluer ses normes lorsque ce qu'elle avait institué ne répond plus aux objectifs de justice qu'elle avait. Auquel cas, si vous voulez, ça n'est plus ôter la structure et la liberté reviendra, ou la libération apparaîtra, c'est simplement faites évoluer votre société pour qu'on essaye qu'elle soit le plus juste possible. Et pour moi, c'est ça le point de repère. C'est, dans un cas, il s'agit de faire gagner un camp ou une partie de la population contre. Dans l'autre, il s'agit de chercher la justice à l'égard de tous, en fonction de ce dont, des besoins de tous. Donc c'est ça. Et de la même façon sur Romero, oui, il a pris la défense des opprimés. Mais la question c'est, est-ce que si ces opprimés avaient été d'un autre camp, est-ce qu'il aurait été aussi ? Oui, je pense. En tout cas, si c'était bien le Christ qui le mouvait, il aurait été, oui, du côté de ceux qui sont petits. Mais est-ce que ça veut dire qu'en même temps, j'embrasse une dialectique à l'intérieur de la société qui clive la société de manière irréductible ? C'est ça ce qui me paraît gênant. Il faut faire attention justement donc sur les vocabulaires, où est-ce qu'ils nous emmènent ? Deuxième aspect, la substitution aux politiques des revendications victimaires ou catégorielles. Oui, mais ça je pense que c'est la mutation actuelle du marxisme. La mutation, ce que Roger Scruton, par exemple, appelle le marxisme culturel, je crois avec raison, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi la lutte des classes avec l'ouvriérisme, qui nous a déçus, les ouvriers ont déçu, et donc désormais, on va faire la lutte des classes avec les autres. Et donc, par exemple, nous allons créer un antagonisme entre l'homme et la femme, en disant, la femme, c'est celle qui a toujours été opprimée de tout temps, et désormais, nous allons la conduire sur le chemin de la libération. Et donc, on va introduire une guerre des sexes à l'intérieur des sociétés, guerre des sexes qui, évidemment, se finira par le malheur de tous. De la même façon, donc, ces revendications, elles sont à la fois minoritaires, micro, etc., mais elles participent du même projet de reconstituer des dialectiques à l'intérieur des sociétés, des dialectiques irréductibles. Parce que, toujours le même système d'avancer vers un progrès, un homme nouveau. Et je pense que, donc, il y a des substitutions aux politiques, ça détruit le politique, ça vous l'avez avec raison souligné, mais c'est du politique. C'est cette manière de faire de la politique, d'introduire des requêtes victimaires, d'introduire une opposition, une guerre à l'intérieur de la société. C'est une manière de faire de la politique.
Et sur le pape ?
La théologie du peuple. Écoutez, la théologie du peuple, j'ai pas travaillé la question plus que ça. Mon impression, c'est que c'est comme la laïcité française, ce n'est pas un produit d'exportation. C'est-à-dire que je pense que c'est très lié à l'expérience péroniste, c'est très lié à la recherche d'une voie moyenne en Argentine, entre d'un côté donc, le danger, on va dire, de l'opposition qu'il y a au Brésil, qui est le sommet de l'opposition, et puis de l'autre côté, la théologie de la libération. C'était une voie moyenne qui est lié à une expérience nationaliste. Bon, elle a des aspects très intéressants, notamment sur le fait que le peuple, effectivement, attention, chez François, c'est la théologie du peuple croyant. Du peuple croyant. C'est pas l'hypostase du peuple marxiste, mais c'est la théologie du peuple croyant. C'est la dévotion populaire, la foi populaire, voilà. Et ça, c'est... Voilà. Mais... Dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment une théologie qui s'est constituée, qui a offert un modèle de réflexion, d'universalisation ? J'en suis pas sûr. Mais je m'arrête pour... Je connais pas assez.
J'ai juste une petite précision, pardon, sur Marx. En fait, le marxisme est d'abord une réaction à l'hégélianisme. L'hégélianisme, c'est une théologie de l'histoire que beaucoup de théologiens chrétiens ont reprise. D'ailleurs, ils ont repris la méthode hégélienne. Le marxisme est une philosophie de la nature, c'est une philosophie du devenir naturel, donc l'importance de faire de la philosophie de la nature. C'est une philosophie héraclitéenne du devenir par contradiction. Et c'est une logique de la contradiction. C'est-à-dire que le marxisme, et vous l'avez dit, hein, frère, la lecture marxiste des choses, c'est que tout individu est susceptible d'être opprimé par une structure dominante, que ce soit la race, le sexe, la classe, etc. Deuxième remarque, le marxisme n'est pas un communisme. C'est pour ça que nous sommes toujours marxistes aujourd'hui, y compris dans ce qu'on appelle la droite libérale, dans la mesure où le marxisme est pour une société de l'émancipation de l'individu. Au lieu du coup de ne plus se servir du capital pour l'émancipation de l'individu, on se sert aujourd'hui du capital pour l'émancipation de l'individu. Mais le but de l'histoire, c'est bien l'émancipation radicale des individus dans ce qu'on appelle le libéralisme libertaire. C'est pour ça que quand on donne caution au libéralisme économique, attention de ne pas aussi offrir un instrument puissant d'une mondialisation, non plus du prolétariat, mais des individus mondialisés, qui se libèrent par le levier du capitalisme. Certains grands marxistes révolutionnaires de 68, que je ne citerai pas, ont fait une évolution politique où ils sont en train d'être capitalistes. Ben oui, parce que le capitalisme, c'est un levier d'émancipation. Le transhumanisme, c'est l'ultime étape de l'humanité vers une société sans classe, d'individus libres et égaux, maîtres d'eux-mêmes, souverains grâce aux flux financiers. Donc le marxisme n'est pas aux oubliettes de l'histoire, il est présent aujourd'hui. Merci.
Oui. Ne pensez-vous pas que la réponse, en fin de compte, est apportée par le Notre Père ? Avec le Notre Père, si on applique le Notre Père, il y a la théorie de la libération, le principe de la libération est systématique. On est tous frères, depuis 13 milliards d'années, nous sommes enfants du Big Bang et en puissance d'être, et aujourd'hui, nous sommes tous frères. Et si nous sommes tous frères, si effectivement celui qui est en face de moi applique le Notre Père, le comprend d'abord, ça mérite une explication, et le comprend, il n'y a pas de problème. Mais je pense que ça passe par ça, et autrement dit, pour parler plus simplement, le bien commun, pour moi, c'est si tu n'es pas libre, je ne suis pas libre. Si tout le monde pense comme ça, si tu n'es pas libre, je ne suis pas libre, il n'y a plus de bagarre, il n'y a plus de controverses. Parler, dire je ne suis pas d'accord avec toi, c'est déjà un début de guerre. La polémique, c'est la guerre. Ça, d'ailleurs, le sens étymologique, c'est la guerre. Ne croyez-vous pas donc que la réponse est toute la réponse est dans le Notre Père.
Merci.
Alors, je pourrais juste faire une distinction. Notre Père, au sens où il y a deux sens. Le premier, qui est le dominant, qui est notre rapport avec Dieu comme créature. Et là, je pense que oui, bien évidemment, que la sortie des idéologies, la fin des idéologies, c'est le moment où l'homme arrête de se prendre pour Dieu en se donnant des voies de salut en voulant se sauver lui-même et s'en remet à Dieu. Le fait de pouvoir dire notre Père à Dieu, au sens où on s'adresse à Dieu, tous, dans une société, c'est cela qui nous met à égalité, qui nous place dans un rapport à l'égard d'autrui, à l'égard de la nature. Il n'y a pas de rapport à autrui à l'égard de la nature sans rapport à Dieu, parce que c'est ce rapport à Dieu qui est fondateur d'un rapport à autrui et à la nature et au cosmos. Deuxième aspect, pour des chrétiens, ce Notre Père possède un sens plus profond, qui est la révélation du nom du Père de Jésus-Christ, et donc d'une personne divine en Dieu, qui est Dieu. Donc, mais au premier sens, je suis tout à fait d'accord, et je dirais, c'est peut-être, je rebondirai, pas une question. Michel Boyancé, c'est quand vous parliez du bien commun et de la difficulté, par exemple, à aborder la question de Dieu dans des comités d'éthique ou avec des gens qui ne sont pas croyants, je dirais que pour moi, c'est ça qui est la vraie difficulté, qui est la question d'être croyant, c'est être croyant au Christ. Mais nous devrions, parce que c'est quelque chose qui devrait normalement être beaucoup plus partagé, nous devrions assez facilement pouvoir nous demander, nous voulons prendre telle décision, est-ce que cela peut-il plaire à Dieu ? Et ça, c'est une question que tout homme peut se poser. Dieu, le principe universel, le souverain bien, voilà, il y a des tas de manières de nommer cela, mais face à Dieu principe, on peut tous se demander est-ce que cela convient à Dieu ?
Alors sur la question que vous posiez, Jésus dans l'Évangile, le Notre Père, c'est quand même une phrase de Jésus, enfin un texte de Jésus, a des mots assez clairs. Mon royaume n'est pas de ce monde, les pauvres vous en aurez toujours, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Donc l'Évangile n'est pas un programme politique. L'Évangile est une révélation de nourriture spirituelle, et le frère l'a très bien dit, pour nourrir intérieurement notre foi, notre espérance et notre charité. Bien sûr, l'Évangile inspire l'action. Mais entre l'Évangile et l'action, il y a toutes les médiations des sciences humaines, au sens noble, y compris la philosophie qui est quand même, sur le plan architectonique, la science des sciences subordonnée à la théologie, mais qui a son rôle propre, son autonomie, non pas son indépendance. Et pour prendre des décisions, il faut inventorier les sciences économiques, les sciences politiques, les sciences juridiques, la psychologie, la sociologie, etc. Ce que je veux dire, c'est que le Notre Père ne peut pas être un programme déductif. Il faut une induction aussi à partir des sciences naturelles et humaines qui nous permettent de comprendre, par exemple, pourquoi la philosophie de la nature de Marx pose des problèmes en philosophie de la nature pour alimenter une logique d'action. Ça, c'est une réponse, mais vous avez tout à fait raison dans l'inspiration intime. Tout homme est mon frère, donc j'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs vis-à-vis de mon frère. Et pour décliner les décisions juridiques ou politiques à prendre quant aux droits et aux devoirs, il faut travailler les différentes disciplines, y compris la théologie, bien sûr, et les disciplines subordonnées. Par rapport à la question, frère, à votre question,
sur le Dieu dans les voilà. Discussions.
Alors, effectivement, dans une discussion d'équipe médicale, je prends mon expérience, ou d'équipe éducative, ou d'équipe dans le domaine social, les gens sont très souvent assez sensibles à ce qu'on ne fasse pas de prosélytisme éthique pour prendre des décisions. Donc, on prend des biais pédagogiques. Un des biais pédagogiques très intéressant, c'est de montrer d'où vient l'individualisme libéral-libertaire actuel, y compris marxiste, et en quoi la question de la personne permet de répondre aux défis de l'individualisme, et en quoi les droits et les devoirs de tous et de chacun par rapport à la dignité permet de prendre une décision éthique. Autrement dit, Dieu est présent, mais pour respecter le cheminement des personnels, où il y a des soignants, des infirmières, des infirmiers, des psychologues, des psychopomotriciens, des médecins, etc., à un moment donné, il faut bien prendre une décision pour Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, on arrête l'alimentation, l'hydratation, on continue, on fait la piqûre, on ne fait pas la piqûre, on accompagne, on anticipe, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, la pertinence des outils de l'enseignement de l'Église dans le domaine de l'anthropologie philosophique et de l'éthique sont très, très, très utiles. Animé, bien sûr, par les vertus théologales, et le témoignage, d'ailleurs, des médecins chrétiens est là aussi. Mais dans la procédure collégiale qu'on met en place sur le plan médical, il n'y a pas d'argumentation religieuse, par définition. Et c'est là où les chrétiens doivent se réapproprier l'enseignement éthique et anthropologique de l'Église, qui remonte aux Grecs. Hippocrate, c'est quand même le grand penseur grec pour les médecins. Mais Hippocrate, il était païen. Il a dit des choses pas si inintéressantes que ça.